le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à tous et bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Vous êtes à l'écoute du service protestant. Nous accueillons aujourd'hui Samuel Amédreau, pasteur de l'Église protestante unie de France à Paris, dans la paroisse du Saint-Esprit. Aujourd'hui, réussir sa vie.
Bonjour. Je ne lance pas ce petit mot en l'air. Je souhaite vraiment que ce jour soit bon pour vous qui écoutez. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble et je forme le vœu qu'à la fin de ce moment partagé, vous ressentiez quelque chose du bonheur de vivre. Alors je le répète une fois encore, au nom de ce Dieu qui m'inspire et qui rend belle notre existence, bonjour. Pensez-vous que votre vie est réussie? Que faudrait-il pour qu'elle le soit à vos yeux? Qu'est-ce que cela veut dire au fond, réussir sa vie? C'est le sujet que je propose à votre méditation pour ce matin. Je voudrais débuter cette méditation en vous racontant l'histoire d'Evelyne. Evelyne a 4 ans et sa maîtresse d'école maternelle explique patiemment à ses petits élèves que, sur Terre, tout le monde doit travailler. « Vraiment tout le monde ?» demande Evelyne. « Enfin, presque tout le monde, » répond la maîtresse. « Alors moi, quand je serai grande, je serai presque, » répond Evelyne. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, on peut lire qu'Evelyne, au fond, a sans doute raison. « N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. » En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Certains d'entre vous connaissent peut-être le psaume 23. J'aimerais aujourd'hui vous en proposer une version japonaise. Si vous pensez déjà connaître ce psaume, laissez-vous surprendre. Et si vous ne le connaissez pas encore, laissez-vous porter par cette prière. Seigneur, règle l'allure de mes pas. Je ne me précipiterai pas. Tu m'incites à des pauses régulières. Tu me pourvois d'images paisibles qui rétablissent ma sérénité. Tu me conduis sur la voie de l'efficacité par le calme de l'esprit et ta direction de paix. Même si j'ai un grand nombre de choses à accomplir chaque jour, je ne me tourmenterai pas, car ta présence, Seigneur, m'accompagne. Ton immortalité, ta grandeur me garderont en équilibre. Tu ménages le délassement et le renouveau, au plus fort de mon activité, car tu imprègnes mon esprit de tes huiles de tranquillité. Ma coupe déborde de joyeuse énergie. L'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mon labeur, car je marcherai dans tes pas, Seigneur, et j'habiterai ta demeure pour toujours. Au fond, monsieur le pasteur, vous faites quoi, vous, pendant la semaine? Vous avez un vrai métier à côté? Et moi, de répondre immanquablement, Vous n'imaginez pas la chance que j'ai. Je ne travaille que le dimanche, et encore, le dimanche matin. Au fond, ça me change. Quand j'étais enfant, à la maison, on respectait le sabbat. Pas question de travailler le dimanche. Tous les devoirs devaient être finis le samedi soir. Je me demande si aujourd'hui on sait encore se reposer, prendre le temps du repos, ne rien faire. Et je ne parle pas ici des repos forcés, comme il y avait avant des travaux forcés. Que vivent les chômeurs ? Ils ne rêvent à juste titre que de retourner au travail. Je ne dis rien non plus de ce qui se prépare pour l'allongement de notre temps de travail avant de bénéficier d'une retraite complète. De toute façon, même les retraités mènent une vie de dingue. Non, je parle de l'activisme forcené qui nous guette tous. J'en arrive à me souvenir avec tendresse et admiration de mon grand-père maternel. Toute sa vie, il a travaillé. Ouvrier aux aciéries du nord de la France, fabriquant des meubles sur son établi le soir, réparant les vélos, travaillant son jardin jusqu'à la nuit noire, bricolant sans cesse pour tout le monde, prêchant le dimanche dans mon village. Mais le jour de sa retraite, il est rentré de l'usine, il a rangé son vélo dans la baraque au fond du jardin, il a mis ses pantoufles, il s'est assis dans son fauteuil et il n'en est plus sorti. Quand avec mon frère, on a essayé de savoir pourquoi il restait là toute la journée sans rien faire, il nous a juste répondu en patois du Nord, « Mi, j'ai assez ouvré. À cette heure, je m'en repose. » Comment ne pas penser au début du livre de la Genèse ? Je vous propose d'écouter ou de lire chez vous la fin du premier chapitre, à partir du verset 24. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le sixième jour. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le septième jour, il a terminé le travail qu'il a fait. Et le septième jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le septième jour, il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Le récit de la Genèse me rappelle ce que disait mon grand-père. Dieu prend le temps de regarder tout le travail qu'il a fait, un œil d'expert qui juge et qui jauge, un petit sourire de contentement et de fierté devant son œuvre. Une vie bonne et belle, une vie réussie que voilà. J'ai assez travaillé, maintenant je peux me reposer. Une vie réussie, dit-il. Quelle vie réussie ? La sienne ? Non, la nôtre. À l'image du premier regard des parents posé sur un nouveau-né, c'est la première parole que Dieu adresse à sa création. « Ta vie est bonne et belle. Pour moi, elle est réussie. Je ne vais rien y changer. Elle est parfaite à mes yeux. Je l'aime telle qu'elle est. » Il y a là une chose étonnante qui traverse toute la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Second. À chaque fois, je dis bien à chaque fois, qu'il est dit que les hommes se reposent ou peuvent enfin prendre du repos, c'est parce que Dieu le leur a donné. Comment le dire mieux que Jésus lui-même, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, des versets 25 à 30, que je vous lis maintenant. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, qui êtes fatigués. Moi, je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter et ce que je vous donne à porter est léger. Le repos est donc un don de Dieu, parce qu'à ses yeux, notre vie est déjà réussie. Ou pour le dire autrement, on ne peut trouver le repos dans sa vie que lorsqu'on a la conviction d'avoir réussi sa vie. Et je crois profondément que c'est vrai. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une vie réussie? Nous courons tous après. Je suis même convaincu que c'est ce que nous voulons le plus pour nous comme pour nos enfants. Alors de quoi parlons-nous quand nous parlons d'une vie réussie qui nous ouvrirait les portes du repos? Vous souvenez-vous de la chanson de Daniel Balavoine ? Qui ne s'est jamais rêvé en idéal? Soi-même, mais en mieux. Grand, beau, fort, intelligent. Une culture générale qui permet de répondre à toutes les questions du trivial poursuite. Riche, bien sûr. Influent, séduisant, plein d'humour. Musicien chevronné, sportif accompli. J'en passe, et des meilleurs. Une chimère, réussir sa vie? Peut-être bien. En tout cas, devant l'indigence et la dureté de la réalité à laquelle nous sommes confrontés, nous en arrivons tous, un jour ou l'autre, à construire des châteaux en Espagne. Projetant dans ce que Freud appelait des rêves éveillés, nos frustrations de vie réussie. Et nous nous surprenons alors, un peu honteux, à nous enfuir dans des rêves de possession. « Ah, si je gagne au loto !» se disait Perrette portant son pot au lait, rêvant à veau, vache, cochon couvé. Mais surtout, nous ne les avouons à personne, ces rêves éveillés d'une vie idéalement réussie, parce que nous savons tous, confusément et honteusement, que ce rêve de toute puissance est toujours quelque peu infantile et égocentrique. D'ailleurs, il ne faut peut-être pas noircir le tableau. Ce ne sont pas forcément des projections de toute puissance infantile qui nous traversent l'esprit. Combien de fois avons-nous rêvé de réconciliation dans ces situations conflictuelles, dures, en famille, au travail ou même dans l'église? Combien de fois avons-nous imaginé qu'il était encore possible de réparer une situation manifestement dégradée? Qu'on songe ici à la dégradation de la biodiversité ou au réchauffement de la planète. Alors on se refait le match, en se rendant compte qu'on a manqué de répartie dans une discussion. D'à propos, au bon moment. Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. On se prend à revivre la scène comme on aurait aimé la vivre. Trop tard. Regrets éternels. Au fond, la jeunesse dans une main, le journal dans l'autre, je me demande si notre monde ne confond pas vie bonne et réussite. Tout ce que je vois aujourd'hui de notre monde, c'est une apologie de la réussite, articulé au culte de la performance. Le succès, voilà l'idéal de vie du monde contemporain. Impératif de réussite, tyrannie du self-made man, culpabilisation et oubli pour les ratés qui restent invisibles tant qu'ils n'enfilent pas un gilet jaune. Pour réussir sa vie, les autres deviennent des outils objectivés qu'on utilise en fonction de nos besoins, qu'on cherche à éliminer quand ils deviennent gênants et qu'on ignore dans l'indifférence quand ils n'ont plus d'utilité à nos yeux. Et ne pensez pas que cela ne soit que d'aujourd'hui. Il y a dans la Bible un livre de sagesse qu'on appelle Coëlette ou l'Ecclésiaste qui parle déjà de cette question. Je vous propose d'entendre les versets 22 à 24 du deuxième chapitre. Oui, qu'est-ce qu'il reste aux humains de toutes leurs activités et de tous leurs efforts sous le soleil? Tout le jour, ils se donnent du mal et ils souffrent pour réaliser ce qu'ils veulent faire. Et même la nuit, ils ne peuvent pas se reposer. Ah, cela non plus n'a pas de sens. Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire, de profiter des résultats de leur travail. Et j'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une vie est bonne et réussie? Pendant des siècles, l'homme s'en est remis à Dieu pour juger de sa vie, pour évaluer ce qu'il avait fait de bien, pour savoir s'il était sauvé ou non. Mais aujourd'hui, il a décidé de se passer de Dieu. Effet conjugué du rationalisme des Lumières, du matérialisme marxiste, du laïcisme à la française, l'homme postmoderne a évacué toute notion d'au-delà et de transcendance dans les ténèbres de l'obscurantisme religieux dépassé. Et du coup, il se retrouve seul juge de sa vie, le pauvre. Il est dévoré par ce que le philosophe Heidegger a appelé le monde de la technique. Non que les outils techniques soient mauvais en soi, bien au contraire, mais parce qu'ils ne sont plus au service d'aucun absolu, d'aucun objectif valable, d'aucune finalité qui les dépasse et les transcende. Seuls restent les moyens techniques qui tournent en rond sur eux-mêmes. On les appelle intelligence artificielle, deep learning, big data, Google Assistant. Et ils sont censés nous aider à réussir notre vie, faire notre bonheur jusqu'à 120 ans et même au-delà, nous promettons. Quelle perspective horrifiante! Nous assistons au culte de la croissance de la technique à tout prix. Mais la croissance pour qui? La technique pourquoi? Pour lutter contre cette invasion du monde de la technique, on nous parle alors d'humanisme, d'éthique, de respect de la personne humaine et de morale. Voilà, nous dit-on, le moyen de réussir sa vie. Respecter la règle d'or qui veut qu'on ne fasse jamais aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Ne jamais traiter l'autre comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi, c'est-à-dire ne jamais utiliser l'autre. Alors, sur ce chemin de l'éthique humaniste, il faut trouver des modèles, des sages à imiter. Bouddha, Confucius, Jésus, dont on fait un prophète, Gandhi, Luther King, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, le docteur Mukwege, Asia Bibi. Mais sommes-nous certains que ce sera suffisant? Imaginons un instant que tous les êtres humains se mettent, comme par enchantement, à respecter parfaitement cette éthique humaniste de la dignité humaine. Vous imaginez le bouleversement? Quelle révolution! Fini les guerres, les massacres, les génocides. Fini le terrorisme, le racisme, le viol, le vol, la domination, l'exploitation, l'exclusion. L'armée, la police, la justice, les prisons, les CRS et les LBD devenus totalement inutiles. Tous les conflits désormais gérés de manière pacifique et respectueuse. Ah, quel bonheur! Et pourtant, et je pèse ici chacun de mes mots, aucun, je dis bien aucun, de nos problèmes existentiels les plus profonds ne serait pour autant résolu. Cela ne nous aidera pas à vieillir, à transmettre, ni à éduquer nos enfants, à mourir, ni à voir mourir ce qu'on aime, à aimer, ni à être aimé. Pas de repos avant d'avoir répondu à ces questions. Pas de vie réussie. L'éthique est nécessaire, certes, pour adoucir le monde. Mais elle est incapable de construire une vie réussie, une vie bonne et belle. Elle ne suffit pas à nous procurer le repos. Construire une vie bonne, quand allons-nous comprendre que cela ne peut pas se construire? Cela ne peut que se recevoir. C'est un don, un cadeau, une grâce. Gardons en mémoire ce que dit la Genèse. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. C'est Dieu et lui seul qui, dès le départ, donne une valeur à notre vie parce qu'à ses yeux, notre vie est déjà réussie depuis la fondation du monde. N'oublions pas ce qu'affirme l'Ecclésiaste. Le seul bonheur pour les êtres humains, c'est de manger, de boire, de profiter des résultats de leur travail. Et j'ai constaté que c'est Dieu qui donne ce bonheur. De ce cadeau qui nous est fait, il nous est suggéré d'en profiter pleinement pour notre seul bonheur. Il faut réentendre Jésus lui-même. « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. » En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai le repos. Une vie réussie, voyez-vous, ce n'est pas une vie sans aucun problème, dit Jésus. C'est une vie allégée des fardeaux qui nous pèsent et qui nous plombent. Une vie apaisée pour affronter les tempêtes. Un sentiment de sécurité face à mes ennemis, une maison où m'abriter quand je me sens perdu. Voilà le repos promis. Ce n'est pas l'apologie du glandage et du je m'en foutisme, ni même d'une vie sans difficulté, sans embûches, sans soucis. Le repos donné par Dieu, c'est une vie apaisée, en harmonie avec soi-même et avec les autres. C'est le sens du shalom en hébreu. Vivre en plénitude de vie, une vie réussie, gagnée parce que reçue, reçue de Dieu et non pas fabriquée de nos mains. Nous découvrons, ou plutôt nous redécouvrons ici le sens du sabbat, la quatrième parole donnée à Moïse pour le bonheur du peuple, cette parole qui a ouvert notre culte. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Il faut entendre l'appel de Dieu qui résonne à nos oreilles ce matin. Et repose-toi, apaise-toi. Tu n'as pas à réussir ta vie. Elle est déjà bonne et belle aux yeux du Tout-Puissant. Repose-toi, apaise-toi. Tu ménageras ainsi une place pour Dieu dans ta vie. Tu auras le temps de prendre soin de la beauté et de l'harmonie de ta vie. Allez, repose-toi enfin. Apaise-toi. Tu rayonneras ainsi autour de toi et tu seras artisan de paix. Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, dit Jésus, parce que Dieu les appellera ses fils et ses filles. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Aujourd'hui, êtes-vous prêt à reconnaître avec moi que votre vie est un cadeau de Dieu? Vous sentez-vous prêt à croire avec moi que ce qui nous fonde, notre identité profonde, ce qui fait que notre vie est unique, bonne et belle à la fois, nous ne le trouvons ni dans nos origines, ni dans ce que nous possédons, ni dans nos relations, ni même dans nos convictions. Ce que nous sommes, nous ne le fabriquons pas, nous le recevons. Nous ne le construisons ni par nos efforts, ni par nos choix. C'est un cadeau, c'est une grâce. Être chrétien, c'est savoir que notre vie est en Christ. Il est notre chemin, notre résurrection et notre vie. c'est ce que nous croyons. Alors, au moment de nous quitter, de vous dire au revoir, je vous souhaite de ne pas réussir votre vie. Je vous souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. Je vous souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air, les pieds dans vos rêves et les yeux pour voir le réel. Je vous souhaite de vivre sans vous laisser acheter. Je vous souhaite de vivre debout et habité. Je vous souhaite de vivre sans étiquette, sans titre, sans distinction. Je vous souhaite de vivre dans un monde sans exclu, sans rejeter, sans mépriser, sans humilier. Je vous souhaite de vivre dans un monde où chacun aura le droit de devenir votre frère et de se faire votre prochain. Oui, je vous souhaite de vivre libre, dans un monde libre, d'aller et de venir, d'entrer et de sortir, libre de parler librement et de vivre au grand air. Je vous souhaite de parler non pour être écouté, mais pour être compris. Je vous souhaite de vivre l'inespéré, de rencontrer l'inattendu, de garder une place pour Dieu. C'est dire que je vous souhaite de ne pas réussir votre vie. Bonne journée à chacun.
Le service protestant de ce dimanche matin sur France Culture s'achève. Réussir sa vie, c'était le thème de la méditation de Samuel Amédro, pasteur de l'Église protestante unie de France à Paris, dans la paroisse du Saint-Esprit. Un grand merci à vous pour votre écoute. À la réalisation Thomas Jost, à la prise de son Cédric Châtelus. Le service protestant sur France Culture vous est proposé par le service radio de la Fédération protestante de France, présenté par Olivier Betty. Vous souhaitez réécouter cette méditation, je vous invite à vous rendre sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Si vous désirez recevoir le texte de ce dimanche matin ou nous faire part de vos réflexions, écrivez-nous au 47 rue de Clichy dans le 9e arrondissement de Paris. À 16h, je vous retrouve pour les conférences du Carême protestant. Le pasteur Bruno Godelet évoque pour cette année 6 figures narratives de l'Évangile. Aujourd'hui, le témoignage de Marie-Madeleine. Restez sur France Culture, dès 9h vous retrouvez la rédaction pour le journal, suivi de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wachnin. Beau dimanche à tous et à chacun.